RCF Ovio. 7h-9h, matin première.
Comment bien vieillir? Que se passe-t-il après 50 ans? Des questions existentielles et d'actualité avec l'invité de la matinale, Thomas Galisseux.
Alors que le débat sur les retraites s'invite souvent ici même, la question de l'âge du départ à la pension ou de la remise à l'emploi des personnes âgées, Pascal Bruckner sort un livre, une méditation sur la vieillesse, une brève éternité. C'est le titre de son nouvel ouvrage dans lequel l'intellectuel star français part de cette réalité. Le progrès, la science nous a fait gagner plus de 20 ans d'espérance de vie en moins d'un siècle. Une jeune fille sur deux qui naît en 2019 sera centenaire. Alors qu'allons-nous faire de cette vie supplémentaire, de ce sursis? Comment gérer ces nouveaux vieux? Il faut qu'ils travaillent, dit-il. La réponse est cash, comme l'est le philosophe français.
Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour.
La jeunesse, c'est devenu le nouveau modèle aujourd'hui?
Le désir de jeunesse est devenu le symptôme d'une société vieillissante. C'est ça qui est amusant aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les gens, à partir de 40-50 ans, veulent absolument rester dans le coup, ne pas changer de vêtements. Donc les mères s'habillent comme leurs filles. Les personnes très âgées sont, vous l'avez remarqué, avec des bâtons de ski dans la rue pour traverser le boulevard, ont des sacs à dos et on a le sentiment qu'ils vont grimper l'Everest alors que simplement ils traversent un parc. Donc il y a un changement de mentalité qui est aussi un changement dans le vêtement.
Et vous expliquez, hein, Pascal Bruckner, comment à 40 ans on est adolescent, puis vient les quinquados, les sexygénaires. En fait, vous vous sentez mal, vous, dans ce monde-là? En tant que vieux, si j'ose dire.
Alors, mal, non. Non, je regarde ce monde un peu, je lui tends un miroir, mais c'est un regard à la fois amusé, critique, mais aussi assez tendre, parce que c'est le monde dans lequel je vis. Je suis profondément moderne, j'ai absolument rien contre la modernité, et surtout, j'aime que cette époque m'ait permis d'atteindre l'âge de 70 ans, puisque c'est mon âge, en étant encore autonome, en bonne santé, et d'avoir une activité intellectuelle, et c'est un progrès dont nous devrions être redevables à la science et à la médecine.
Et pourquoi faire un livre sur l'éloge de la vieillesse, alors que justement la société, pour la société, la jeunesse, c'est devenu cette vertu cardinale?
Alors, c'est pas un éloge de la vieillesse, c'est un éloge de cette nouvelle période qui va de 50 à 75 ou 80 ans, et que j'appelle l'été indien de la vie, où l'on n'est ni jeune ni vieux. C'est-à-dire justement, c'est une période intermédiaire qui a été littéralement créée par les progrès de la médecine et nous ne savons plus vraiment où nous en sommes. D'un côté, nous sommes tiraillés par la nostalgie de la jeunesse et de l'autre côté, nous devons reconnaître qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'années d'heures de vol derrière nous et cette nouvelle catégorie, ce nouvel âge de la vie, j'essaie de le considérer à la fois avec optimisme et aussi avec mesure.
Alors, est-ce que c'est la jeunesse qui fait la leçon aujourd'hui, Pascal Bruckner? Vous en êtes pris à Greta Thunberg, hein, en dénonçant, je vous cite, sa dangereuse propagande de l'infantilisme climatique. En quoi est-ce qu'elle est dangereuse, Greta Thunberg?
Greta Thunberg en elle-même n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est tous ces adultes qui se prosternent devant elle et qui ont l'impression de retrouver un oracle, alors qu'en réalité, Greta Thunberg ne fait que reproduire, répéter tout ce que les médias nous inculquent depuis 20 ans, à savoir qu'effectivement, il y a un changement climatique, une possible catastrophe.
Ce sont les médias qui inculquent ça ou c'est une réalité qui s'impose justement à tout le monde?
Oui, c'est les deux choses. C'est une réalité et on a bien vu après la canicule de cet été que effectivement, les gens en ont pris un peu plus conscience, mais c'est vrai, c'est aussi quelque chose qu'on nous répète jour et nuit. Moi, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup la presse et j'écoute beaucoup la radio et la télévision. Donc, c'est une conjonction des deux. Et
les glaciers qui disparaissent, les rapports de l'ONU, c'est des mythes médiatiques alors ou quoi?
Ah, j'ai pas dit que c'est des mythes, j'ai dit simplement que les médias rapportent un certain catastrophisme dont Greta Thunberg est simplement la chambre d'écho. Vous vous souvenez pas, vous êtes trop jeune. Martine va à la plage, Martine fête son anniversaire.
Ah, si, on se souvient quand même, oui.
Et bien, Martine belge, Martine. C'est Greta traverse l'Atlantique, Greta va conduire une Tesla prêtée par Arnold Schwarzenegger, Greta a souri pendant la traversée, Greta a le mal de mer. Et la messagère tue le message. Et je trouve qu'une jeunesse qui est élevée au lait du désespoir n'est pas une jeunesse avertie, c'est une jeunesse paniquée.
Mais vous vous rendez compte qu'en tapant justement sur le messager, vous détruisez aussi ce message universel. Ça devrait être une cause commune, une cause universelle justement,
oui, mais
ce combat contre le réchauffement climatique.
Vous le savez très bien, l'écologie est profondément divisée. Il y a plusieurs variantes dans l'écologie. Il y a des écologies catastrophistes, il y a des écologies totalitaires, il y a des écologies positives et intelligentes. Et donc nous sommes aujourd'hui à un carrefour et moi je choisis choisit plutôt une écologie scientifique, rationnelle, qui nous explique ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, moi, je me méfie beaucoup de ces prophètes de la catastrophe.
Greta Thunberg n'a pas eu le prix Nobel de la paix, elle était en lice. Ça dit quoi, justement, des débats? C'est symptomatique de la controverse qu'elle suscite?
Pour moi, l'empire de la raison n'a pas tout à fait quitté le jury Nobel. L'homme qui a été le ministre éthiopien méritait tout à fait ce prix parce qu'il a fait des choses concrètes pour son pays et pour la paix et que cela mérite d'être récompensé. Je pense que les jurés Nobel ont considéré que Greta Thunberg était plus, comme je l'ai dit, une star des médias qu'une militante pour le climat.
Quand vous la critiquez virulemment dans la presse en France, vous suscitez un tollé. Vous comprenez ça? Que vos propos suscitent aussi le débat?
Oui, parce que ça, je brise un tabou. Alors, vous savez très bien que notre société est remplie de tabous et de censure, et que les journalistes sont très narcissiques, et ils n'aiment pas que la personne qu'ils ont élue comme étant le héros ou l'héroïne de l'année soit tout d'un coup remise en question. Donc effectivement, j'ai le sentiment d'avoir transgresser une sorte d'accord commun, ça me fait beaucoup sourire, parce que moi, ça ne me dérange pas, et je pense que bientôt, ceux qui la soutiennent reconnaîtront qu'ils ont peut-être choisi la mauvaise personne.
Pascal Bruckner, on va revenir à votre essai philosophique sur la longévité, vous appelez les seniors à vivre pleinement, à renoncer au renoncement, ne pas s'oublier mais s'accomplir. Y a chez vous une certaine vision quand même idyllique de la vieillesse dans ce que vous appelez l'été indien de la vie, parce que la vieillesse c'est aussi la précarité, la maladie, l'isolement, tout le monde n'a pas les moyens de goûter à cette oisiveté que vous décrivez.
Je n'ai pas une vision idyllique, je dis simplement que nous arrivons à 50, 60 ans en relativement bonne forme physique grâce au progrès de la médecine et grâce à l'hygiène et grâce à une bonne alimentation. Ça n'est pas vrai de tous les pays, ça n'est pas vrai par exemple de la classe ouvrière blanche aux États-Unis décimée par les opioïdes et par une alimentation absolument, la malbouffe comme on dit, absolument immonde qui fait que les gens effectivement meurent plus tôt. Mais en France, en Belgique, en Hollande, dans tous les pays de l'Europe occidentale, nous avons quand même la chance d'être bien conseillés, bien encadrés par la médecine et lorsque nous tombons malades d'une maladie qui nous aurait fauché il y a un demi-siècle, on nous répare pièce par pièce, mais il y a là un sursis de 20 à 30 ans qui est quand même une opportunité historique sur laquelle je pense qu'il ne faut pas cracher.
Et c'est la trame de votre livre. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec ce sursis de vie? La gestion de ce défi démographique, puisqu'on va être de plus en plus à vivre vieux, est au cœur du bouquin. Et vous dressez un portrait un peu accablant de la retraite. Vous dites voir des trentenaires ou des quadragénaires rêver de partir à la retraite à 60 ans, c'est un crève-cœur. Quoi, la remise au travail, c'est l'enjeu justement de la vieillesse de demain?
Alors, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est de ne pas considérer la retraite comme étant l'abandon au loisir, au seul consumérisme. Et il faut que les personnes de 50-60 ans, qui sont souvent en pleine possession de leurs moyens, continuent à avoir une activité utile pour la société. Le désespoir des retraités, vous avez peut-être vu ça, vous êtes très jeune, vous avez peut-être vu ça dans votre propre entreprise, les gens qui partent sont remerciés dans tous les sens du terme, et ils se sentent périmés. À quoi sert-on? Et je pense qu'on ne peut pas vivre 20 ou 30 ans, puisque l'espérance de vie a augmenté, à regarder la télévision et à se contenter à faire faire des croisières.
Donc la meilleure recette pour vieillir, ce serait de travailler?
Ce serait de travailler parce que le travail n'est pas simplement une punition, c'est aussi un moyen de garder des liens avec autrui, c'est de participer à un projet. Travailler, alors on peut moduler les périodes de travail. On peut parfaitement organiser le travail différemment à partir de 60 ou 70 ans. Mais d'abord, je remarque que dans les pays qui marchent le mieux, la retraite a été fixée à 67 ans. L'Allemagne, et vous aussi en Belgique, même la Russie a fixé la retraite à 65 ans.
Ça fait débat, ça fait l'objet d'un débat durant 5 ans, la législature. Parce qu'il y a la question de la pénibilité justement
alors,
des carrières.
Alors, je pense
ça exclut le fait que les gens, de plus en plus, travaillent dur au travail et qu'ils ont du mal à travailler jusqu'à 67 ans. Ça, vous n'en parlez pas.
Oui, si, j'en parle. Pour les métiers à forte pénibilité, bien entendu qu'il faut partir. Mais dans le tertiaire, qui ne sont pas toujours des métiers de fatigue, dans la recherche, vous n'allez pas dire à un mathématicien passé 60 ans, allez, sors de là, c'est fini. Ni à un chimiste, ni à un chercheur, ni à un médecin. Donc, il y a un certain nombre de professions qui sont assez nombreuses, ont envie de continuer à exercer leurs compétences. Et donc, pour cela, je pense qu'il faut repenser la relation des seniors avec le travail.
Pascal Bruckner, vous êtes l'auteur du Désordre amoureux. Vous parlez forcément de plaisir aussi dans ce cadre de la vieillesse. Et vous prenez un exemple, c'est le cas du couple Macron. Et vous décrivez ce couple, Brigitte Macron et Emmanuel Macron, comme une innovation majeure dans le paysage mental de notre époque. Ça serait la nouveauté politique du quinquennat.
Oui, je pense que voilà, ce que je préfère chez Emmanuel, c'est Brigitte, si j'ose dire. Et d'ailleurs, on voit bien les réactions que ça suscite. En Chine, en Amérique latine, les gens sont choqués parce qu'on a l'habitude de voir des hommes âgés avec des femmes plus jeunes, mais l'inverse est très rare, sauf chez les femmes de pouvoir et sauf chez les femmes artistes. Alors pourquoi ça choque? Parce que juste là aussi, c'est un tabou qui tombe. On dit qu'Emmanuel Macron sort avec sa mère, qu'il a épousé une femme plus âgée, que c'était presque une relation de pédophilie lorsqu'il était élève et elle était la professeure. Mais il n'empêche que je crois que Brigitte Macron prend la tête d'un mouvement qui va se généraliser, à savoir que de plus en plus d'hommes jeunes vont être attirés par des femmes plus âgées, parce que ce sera des femmes de pouvoir, parce que ce seront des femmes fortes, des femmes d'influence, des femmes puissantes, et qu'au fond, c'est le pouvoir qui érotise les êtres, et non pas simplement les préjugés qui décident que telle ou telle personne, après un certain âge, n'est plus désirable.
Et on citera une petite phrase en conclusion, que vous citez d'un autre auteur, Gabriel Marcel, « Dire je t'aime, c'est dire à quelqu'un que tu ne mourras point ».
Oui, belle conclusion.
C'est une belle conclusion, oui, oui. Effectivement, une brève éternité.
On peut se dire « je t'aime » à tous les âges et jusqu'au terme.
Ah bah oui, on espère bien, Pascal Bruckner. Oui. Une brève éternité, philosophie de la longévité, publiée chez Grasset, c'est votre dernier livre. Merci d'avoir été l'invité de la
matinale. Merci.
Le 7-9 de Matin Première.